Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe. Alors, une émission un peu chamboulée car notre ami Philippe Christel ne sera peut-être pas là parmi nous, conséquence directe de ces grèves. Nous le saluons en espérant qu'il nous écoute et en espérant peut-être qu'il sera avec nous en fin d'émission. En tout cas, pour remplacer Philippe, Lucien Valdez va avoir la lourde tâche de nous parler de l'actualité européenne. Bonsoir Lucien.
Bonsoir.
Une actualité riche, surtout sur l'Allemagne et sur les dernières déclarations d'Angela Merkel, mais nous verrons cela dans notre dernière demi-heure. Pour commencer, nous avons le plaisir de recevoir Tancrède Josserand. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Pour nous parler, bien sûr, de la Turquie, on en avait déjà parlé la semaine dernière. Philippe avait fait un large exposé. Puis, comme votre livre est arrivé, ça nous permet de pouvoir continuer sur ce sujet avec la sortie aux éditions Ellipse de La Nouvelle Puissance Turque, l'adieu à Mustafa Kemal. Alors, dans ce livre, vous continuez votre travail sur l'évolution d'une révolution silencieuse qui, depuis 2002, bouleverse la société turque, l'arrivée des islamistes au pouvoir et, bien sûr, ses conséquences sur un monde intérieur comme extérieur. Alors, avant de commencer à parler de cette nouvelle puissance turque, vous faites un résumé dans votre premier chapitre de la Turquie d'avant Mustafa Kemal, et vous nous expliquez que la Turquie n'était pas une nation, mais plutôt un empire de peuple cimenté simplement par la religion. Est-ce que ça va être l'une des faiblesses de l'Empire ottoman ?
Oui, parfaitement. Alors, pour commencer, commençons par le commencement. Il faut savoir que les Turcs arrivent en Anatolie, en Turquie actuelle, donc, simplement au XIe siècle, en 1071, après la bataille de Manzikert, où ils écrasent l'armée byzantine. Et en 1290, Osman fonde la maison des Ottomans. Donc c'est cette maison qui, en 1453, avec Mehmet II, va prendre la ville de Constantinople, donc la capitale de l'Empire ottoman, et fonder l'Empire donc ottoman jusqu'en 1923. Donc c'est un empire cosmopolite, c'est l'empire des trois continents qui s'étend du Danube jusqu'à l'Euphrate, de l'Atlas jusqu'au Caucase. Mais ce système est un système cosmopolite et c'est une théocratie qui repose en quelque sorte sur deux piliers. Le premier pilier, c'est l'armée, ce sont les janissaires, donc c'est une société fortement militarisée. Bon, pour mémoire, qui sont les janissaires? Ce sont en fait des enfants chrétiens qui sont ramassés dans les villages des Balkans et qu'on convertit de force à l'islam et dont on fait des soldats, des guerriers, cimentés justement par l'esprit de corps. Le deuxième pilier, en dehors du pilier militaire, c'est le pilier, bien entendu, politique, c'est le système des milliyets. Qu'est-ce que c'est que le système des milliyets? Milliyets en turc veut dire nationalité. Donc en fait c'est un système à caractère communautariste, multicommunautaire on pourrait dire. Chaque religion garde en fait ses coutumes, ses traditions. Chaque religion vit en fait organisée dans une case, où donc ils se forment en communauté et en échange en fait de l'allégeance au sultan, ils gardent liberté de conscience. Et enfin, le dernier pilier de cet empire, c'est l'islam, bien entendu, puisqu'il faut savoir que le sultan est aussi calife, c'est-à-dire commandeur des croyants, et donc que son autorité s'étend sur tous les musulmans dans le monde, même s'ils sont en dehors de l'Empire ottoman. Cet empire ottoman va progressivement entrer en décadence dès la fin du XVIIe siècle avec le traité de Karlovitz en 1699. On assiste au reflux de l'empire ottoman en Europe et ce reflux va s'amplifier à partir du XIXe siècle malgré les tentatives de l'empire ottoman pour se réformer, notamment avec le système des tanzimats ou même le système des capitulations, où là le remède va s'avérer pire que le mal, puisque l'Empire ottoman va se placer sous la tutelle de puissances étrangères, occidentales, comme la France ou le Royaume-Uni. Et enfin, au début du XXe siècle, donc ça va être l'Alali, puisque la Turquie, l'Empire ottoman, va progressivement perdre les guerres balkaniques, première, deuxième guerre balkanique, qu'ensuite elle va entrer dans la Première Guerre mondiale du côté des forces de la Triple Alliance, des forces des puissances centrales, et qu'elle va perdre cette guerre, et qu'en 1920, la Turquie va devoir signer le traité de Sèvres, qui en fait entérine le dépeçage, le partage de la Turquie entre les puissances de l'entente.
Alors, quand Mustafa Kemal, parce qu'on va dans cette première partie aller assez vite parce pour arriver au cœur du livre, quand Mustafa Kemal va prendre le pouvoir, l'Empire est mort, et il va se servir de l'embryon turc pour créer une nation moderne, et vous parlez d'une tâche surhumaine. Je vous cite, il s'emploie à tirer du sommeil une nation ensevelie sous 10 siècles de cosmopolitisme. C'est une politique quasiment impossible.
Parfaitement, mais justement, elle devient possible dans les périodes de crise, dans les périodes où justement, toutes les anciennes institutions, toutes les valeurs à quelles on a pu croire, tout s'est effondré. Et donc, Mustafa Kemal, c'est en quelque sorte le démiurge de la Turquie moderne, le prolome providentiel à la force inhumaine, surhumaine, pour pas dire surhumaine, qui va surgir, hein, un peu du néant, hein, on ne sait d'où. Hein. Et Mustafa Kemal, donc, juste pour rappeler, donc, est né en 1880 à Salonique, et il s'était distingué pendant la Première Guerre mondiale, lors de la bataille des Dardanelles, où il s'était comporté de façon héroïque face aux troupes de l'Entente. Alors, que va faire Mustafa Kemal? En 1923, donc, il réussit à chasser les puissances occupantes de la Turquie, et il va fonder, donc, la République. Il proclame la République. Pour lui, il tire un trait, donc, sur 10 siècles, justement, d'Empire ottoman, d'Empire cosmopolite. Pour lui, la grande tare de l'Empire ottoman, c'est, en fait, d'avoir noyé l'élément turc. Au final, en 1920, qu'est-ce qui se passe? Les Turcs sont minoritaires en Turquie, hein, puisque la Turquie, à cette époque-là, était peuplée aussi d'Arméniens, peuplés, donc, qui ont été massacrés, on le sait, mais aussi de Grecs, hein, d'Assyro-Chaldéens. Et donc Mustafa Kemal veut créer un État à la fois compact et homogène. Hein, donc son idée, c'est le triptyque État-nation, État laïque, État unitaire. Alors cette révolution est quasiment à la fois nationale, cette révolution nationaliste, on peut dire, est aussi une révolution anthropologique. Donc, un nouvel avenir, nouveau passé. Donc Mustafa Kemal va réécrire l'histoire. Donc il tient un trait sur le cosmopolitisme de l'Empire ottoman. Et pour lui, il ne se réclame en fait que du passé anti-islamique des Turcs d'Asie centrale. Donc il va avoir un certain nombre de sociétés d'études historiques qui vont se créer. Hein, on va faire pas mal de recherches, notamment sur l'anthropologie des Turcs. On va mesurer les crânes, hein, pour voir donc que les Turcs sont des brachycéphales et que les brachycéphales ont une supériorité quasiment, oui, une supériorité raciale sur les autres peuples, sur les dolichocéphales, notamment que ce seraient les brachycéphales qui seraient à l'origine de la révolution néolithique, etc. Et on en passe. Ensuite, il va faire une réforme de la langue. Effectivement, l'ottoman n'a pas grand-chose à voir avec le turc actuel. L'ottoman, tout d'abord, s'écrivait, c'est du turc, avec beaucoup de mots persans et arabes, qui s'écrivaient avec une écriture arabe. Le problème de l'écriture arabe, c'est que ce sont des squelettes de mots et qu'on ne prononce pas les voyelles, alors que dans le turc, on les prononce. Donc, qu'est-ce que va faire Mustafa Kemal? En 1928, il va faire la réforme de l'alphabet et il va adopter l'alphabet latin. Donc, ce qui convient beaucoup mieux aux Turcs. L'objectif aussi de cette réforme est de démocratiser l'accès de la langue. Donc, le fait que, jusqu'en 1928, il y avait 90% d'analphabète en Turquie. Donc, l'objectif, c'est que l'ensemble de la population puisse savoir lire et écrire. Donc, toujours l'idée, là, de créer un homme nouveau. Puis, bon, des réformes, comme par exemple celle du patronyme, hein, c'est-à-dire qu'avant, les Turcs portaient, comme les Arabes, comme nom de famille, justement, le prénom de leur père, et ainsi de suite. Et donc, Mustafa Kemal va demander aux Turcs de choisir un nom. Lui va prendre le nom d'Atatürk, Ata, alors c'est pas du turc, Ata, c'est un mot hittite qui veut dire père, donc le père des Turcs. Ensuite, révolution vestimentaire, puisque Mustafa Kemal va interdire le port du fez. Donc le port du fez, pour nos éditeurs, peut-être qu'ils le savent pas, le fez, c'est ce chapeau rouge, hein, donc sans visière. Pourquoi donc Mustafa Kemal veut l'interdire? Pourquoi justement cette interdiction va se heurter à tant de problèmes? Eh bien, le problème, c'est que pour les musulmans, les croyants, eh bien, le fait de se cacher le front avec une visière, hein, avec les casquettes, eh bien, c'est un aveu d'impureté, c'est-à-dire qu'on a fait un péché face au Tout-Puissant. Et donc, cette interdiction du fez va heurter particulièrement les Turcs, et Mustafa Kemal ne va pas hésiter à faire fusiller des dizaines de récalcitrants. Ensuite, bien entendu, c'est la promotion des femmes. Alors, il faut savoir que les femmes en Turquie ont le droit de vote dès 1934, donc quasiment 10 ans avant les femmes françaises. Bon, le problème, c'est qu'il faut le dire clairement, elles ont le droit de vote, oui, mais pour un parti unique, puisqu'il n'y a qu'un seul parti, c'est le Parti républicain du peuple. Donc, ça limite assez difficilement, radicalement les choix.
Ouais, l'intention était bonne.
L'intention était bonne. D'où aussi des réformes juridiques, hein, puisque la Turquie va adopter, Mustafa Kemal va adopter dans le corpus occidental ce qu'il juge de meilleur, donc le code civil suisse qui est très inspiré du code civil français, le code commercial allemand et le code pénal italien. D'ailleurs, pour à titre d'anecdote, il faut savoir que le code pénal italien, il va adopter celui de Mussolini, et que, par exemple, les articles 141 et 142 du code pénal qui interdisent le droit de grève seront, et qui étaient une retranscription intégrale de la législation mussolinienne, seront en vigueur en Turquie jusqu'en 1960. Et enfin, donc, nouvel État égale nouvelle capitale. Mustafa Kemal va changer de capitale. Donc Istanbul était trop empreint de cosmopolitisme. Hein, c'est une ville monde. Hein, c'est une ville qui, avant d'avoir été turque, était une ville grecque. Bon, donc une ville européenne. Et donc il va prendre la ville d'Ankara. Ankara qui se situe au cœur du réduit anatolien sur les plateaux. Et là, donc, alors qu'il n'y avait rien, Ankara c'était une cuvette marécageuse, eh bien du néant vont surgir de grands bâtiments administratifs, hein, comme on sait si bien le faire dans les années 20-30. Il n'y a qu'à voir le mausolée d'Atatürk, hein, qui est extrêmement, comment dire, représentatif du style d'architecture cubique, on pourrait dire, de cette époque.
Qui est en couverture de votre livre.
Exactement, voilà.
Pour les auditeurs.
Alors, juste pour revenir, ces réformes, en fait, on peut les résumer, c'est les six flèches en turc, ce que les Turcs appellent les Altehok, donc le nationalisme, le populisme, la révolution, l'étatisme, la laïcité et la république. Donc ce sont donc les six principes du kémalisme. Et on va s'arrêter sur un principe en particulier qui est celui de la laïcité. Alors la laïcité, c'est généralement le plus important de ces principes qu'on retient. Qu'est-ce que c'est que la laïcité en Turquie, la laïcité kémaliste? Cette laïcité n'a pas grand-chose à voir avec celle qui prévaut en France à l'heure actuelle. Puisqu'en France, il y a stricte séparation de l'Église et de l'État, sauf dans les départements de l'Alsace et de Moselle, hein, où dans ces départements, en fait, on a le droit à une laïcité concordataire, où l'État reconnaît trois religions, le judaïsme, le protestantisme et le catholicisme. La laïcité turque, c'est tout le contraire. On pourrait dire que c'est une laïcité concordataire. Oui, on pourrait dire justement que c'est un peu comme en Alsace-Moselle, que c'est une laïcité concordataire, dans la mesure où l'État turc n'a pas de religion d'État, mais l'État turc reconnaît l'islam sunnite hanafite comme religion des Turcs. À partir de ce moment-là, il y a un ministère des affaires religieuses qu'on appelle le Dinayet, et ce ministère des affaires religieuses encadre la pratique de l'islam en Turquie.
C'est-à-dire qu'il va en fait contrôler l'islam.
Exactement, c'est-à-dire qu'il s'agit d'encaserner l'islam pour mieux contrôler l'islam. Puisque le problème de l'islam, c'est que l'islam ne sépare donc ni le spirituel ni le temporel, les mêle étroitement, qu'il érige donc en droit positif, hein, donc les écritures. Et que si on laissait l'islam sans contrôle, hein, si on faisait vraiment comme en France une laïcité où il n'y avait vraiment aucun contrôle, eh bien justement, l'islam pourrait prendre trop de poids, trop d'importance sur la société. D'où cette nécessité justement de l'encadrer. Alors quelques exemples. Tous les vendredis en Turquie, les sermons, les prêches de la mosquée sont édités par ce ministère des cultes. Les desservants du culte, les imams sont payés, sont fonctionnaires de l'État. Enfin, l'appel à la prière jusque dans les années 60 se faisait en turc. Au lieu de dire Dieu à Allah Akbar, les Turcs disaient, utilisaient pour le mot Dieu, prenaient le terme turc de Tanrı. Bon, donc en quelque sorte, l'idée aussi c'était de nationaliser cet islam, de créer un islam scientiste et national, un islam rationnel et nationaliste. Enfin, comment dire, et en tout cas adopté à la sauce turque. Paradoxalement, il faut bien comprendre que l'islam en Turquie est aussi un ciment identitaire. Donc tout en voulant couper les liens avec l'islam, les kémalistes vont vouloir aussi s'en servir, hein, pour souder cette population. Donc aujourd'hui encore, sur les cartes d'identité en Turquie, vous avez mention de la religion. Et dans les écoles en Turquie, pareil, vous avez de façon obligatoire, même si vous n'êtes pas de confession musulmane, vous avez des cours d'instruction religieuse, et cela encore jusque dans les classes de lycée, vous avez un contrôle à la fin de l'année.
Alors, sur ce contrôle de l'islam, certains peuples en fait avaient une certaine indépendance vis-à-vis des lois et du droit, et là il va commencer à avoir certaines contestations vis-à-vis de cet islam-là.
Alors, effectivement, oui. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? En Turquie, il n'y a pas que des sunnites hanafites. Alors, l'hanafisme, qu'est-ce que c'est? C'est une des quatre écoles juridiques de l'islam. Donc, il y en a trois autres. Le hanbalisme, le chaïfisme et le malikisme. Donc, les Turcs sont en majorité, donc, hanafites. Mais, il y a 20 à 25% de la population turque qui n'est pas hanafite, qui est alévi. Qu'est-ce que c'est que l'alévisme ? C'est une forme, on va dire, très abâtardie de chiisme, un mélange entre le chiisme, des croyances chamaniques des Turcs d'avant l'islam et des quelques zestes de christianisme. Voilà. Donc on peut. Alors donc quand vous allez dans les villages alévi en Turquie, il y a généralement jusqu'en les années 80, il n'y avait pas de mosquée. Les femmes ne portent pas le voile et ils consomment de l'alcool. Et par ailleurs, même si eux-mêmes se considèrent comme musulmans, ils sont très mal vus par le reste de la population, par les Turcs sunnites hanafites. Donc ils les accusent d'être des dissidents. Enfin bref, de pas être de bons vrais musulmans. D'ailleurs, beaucoup d'alévis en Turquie sont connus pour avoir des engagements à gauche et à l'extrême gauche.
Alors, on va passer à l'étape suivante, je dirais. Mustafa Kemal meurt en 1938, c'est ça ?
Oui, le 9 novembre.
La neutralité du pouvoir kémaliste pendant la guerre va affaiblir la Turquie, je parle de la Seconde Guerre mondiale, et vous expliquez que sous la pression des alliés, les dirigeants vont être obligés de s'ouvrir au multipartisme, et en 1945 se crée le Parti démocrate. Et là, on va avoir un affrontement entre une élite républicaine kémaliste et les partisans du peuple, le Parti démocrate.
Oui, alors, tout en sachant que donc ce parti démocrate, ses principaux dirigeants, que ce soit Jalal Bayar ou Adnan Menderes, étaient tous issus du Sarraï républicain et qu'eux-mêmes étaient d'extraction tout ce qui est laïque. Jalal Bayar était lui-même maçon et était connu pour ses orientations maçonniques. Simplement, face donc au parti républicain du peuple, ces dirigeants démocrates vont instrumentaliser justement la soif de sacré, ils vont capter cette soif de sacré que réclamait la population qui avait été brimée dans ses aspirations religieuses pendant plus de 20 ans. Donc le Parti démocrate va arriver au pouvoir en 1950, il va être chassé du pouvoir en 1960 par l'armée. L'armée qui donc s'affirme comme étant dès cette époque-là la gardienne à la fois de la laïcité mais aussi de l'unicité, de l'unité nationale. Donc à chaque fois qu'il y a un péril sur la laïcité, sur l'unité nationale, l'armée intervient. Donc il faut bien comprendre qu'en Turquie, l'armée c'est l'épine dorsale de l'État et que qu'est-ce qui s'est passé en 1923, c'est l'armée qui a créé l'État et l'État qui a créé la nation, la Turquie.
Alors le paradoxe à l'époque est que plus la Turquie rentre dans les institutions occidentales, alors vous citez l'OCDE, le Conseil de l'Europe, le traité de l'Atlantique Nord, plus elle s'éloigne du modèle d'occidentalisation d'Atatürk. Comment vous expliquez ça ?
Non, c'est très simple, c'est-à-dire qu'en 1950 nous sommes dans dans une logique de guerre froide. Donc les Turcs sur un plan extérieur tout en se rapprochant de l'Occident en général et de l'Europe en particulier, puisque ça c'était à cette époque-là, comme vous l'avez dit, qu'il y a les premiers accords d'association avec l'Union européenne qui sont signés en 1963, donc qu'elle adhère au Conseil de l'Europe en 1949, qu'elle adhère à l'OTAN en 1952, et bien c'est à cette époque-là que pour pallier justement à la menace communiste en interne, la Turquie est obligée d'allumer les contrefeux de l'islam. Bon, parce que quel est l'ennemi le plus, que dans l'esprit des Turcs, quel est l'ennemi le plus virulent du communisme, ça peut être justement qu'une foi religieuse, d'où la nécessité de réactiver donc cette la croyance.
Alors, on va effectivement rentrer dans une période de troubles pendant plusieurs décennies. L'armée, comme vous le dites, est garant de l'héritage de Mustafa Kemal. Et pourtant, c'est cette même armée qui va faire revenir le religieux, donc l'islam, au cœur de l'État.
Alors oui, mais là aussi, il y a eu des évolutions, c'est-à-dire que il faut bien se remettre aussi en cause. En Turquie, il y a eu très exactement, on va dire, 4 coups d'État. Il y a eu le coup d'État de 1960, on en a parlé, le coup d'État ensuite de 1971, et enfin les coups d'État de 1980 et de 1997. Là, vous faites allusion au coup d'État de 1980. Qu'est-ce qui se passe en 1980 ? Nous sommes dans un climat de guerre fraîche, très tendu avec l'Union soviétique. Rappelez-vous les histoires de SS-20, de Pershing. La Turquie, elle vit en fait comme l'Italie à cette époque-là, en fait ces années de plomb. Donc où il y a un terrorisme de gauche qui répond à un terrorisme de droite, extrêmement violent et vice-versa. On ne compte pas plus les assassinats chaque semaine. Ça se compte en plusieurs centaines de morts. Bon, et à partir de ce moment-là, l'armée, en 1980, va intervenir. Et l'idée des militaires, c'est de dire qu'au final, il y a eu un problème, que la marche forcée vers une certaine forme d'occidentalisation sans âme a dépossédé les Turcs de leur identité nationale et que, mine de rien, l'islam est un islam qui serait national, hein, et qui serait bien tenu en main par l'armée, pourrait justement dépolitiser la société et atténuer les tensions. Donc l'armée en 1980 va être le fer de lance de ce qu'on appelait la synthèse islamo-nationaliste, avec le général Kenan Evren en particulier. Bon, le problème, c'est que cette synthèse islamo-nationaliste, dont les militaires vont se faire les chantres, tout en jamais ne proclamant l'islam religion d'État, absolument pas. Il faut absolument qu'il y ait une séparation entre islam et État, mais que l'islam serve en fait de référent identitaire. Eh bien, ça va se retourner contre eux, parce qu'à partir des années 80, va se développer en Turquie un mouvement islamiste particulièrement puissant, avec le parti de la prospérité de Necmettin Erbakan. Et à partir du moment où on a légitimé ce discours religieux au sein même de la vie politique turque, eh bien le parti qui en est justement le plus porteur va nécessairement être légitimé dans les urnes. Et en 1997, ce parti dirigé par Necmettin Erbakan va arriver au pouvoir. Et ça va être la première expérience des islamistes au pouvoir en Turquie, qui va durer très peu de temps.
Alors, effectivement, vous parlez même déjà de première victoire en 94-95.
Oui.
Et effectivement, Erbakan va arriver comme Premier ministre. Et là, par contre, ils vont commencer, je dirais, par rapport au monde occidental, à faire peur. Ils vont tourner le dos à l'Europe. C'est peut-être l'une de leurs plus grosses erreurs à ce moment-là.
Oui, enfin, l'une de leurs plus grosses erreurs, mais en même temps, là où ils sont cohérents avec eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont toujours été, les islamistes turcs, à l'origine, ont toujours été, on le verra hein, tout à l'heure, ont toujours été extrêmement critiques à l'égard de l'Union européenne, ont toujours considéré l'Union européenne comme étant un club maçonnique sous influence chrétienne. Donc pourquoi la Turquie aurait intérêt à y entrer hein? Bon. Donc leur idée, plutôt avec Erbakan, c'était de créer un grand marché commun musulman du Maroc jusqu'à l'Indonésie. Bon, et ensuite Erbakan aussi voulait réislamiser la Turquie en profondeur, notamment il s'était investi particulièrement dans la défense, enfin dans la levée d'interdiction du port du voile pour les jeunes filles.
C'était trop tôt finalement.
C'était beaucoup trop tôt. Erbakan en plus n'avait pas d'alliés externes, c'est-à-dire que les Américains se méfiaient beaucoup de lui, puisque Erbakan a toujours été très critique à l'égard de l'alliance avec les États-Unis, mais aussi avec Israël surtout. Donc il n'avait pas véritablement de parrain extérieur pour, en quelque sorte, dédiaboliser son discours.
Et puis surtout, il n'avait pas la technostructure avec lui.
Et il n'avait pas encore cette technostructure dont nous allons parler. Donc c'est ces cadres qui étaient encore, en quelque sorte, un peu dans les limbes. Donc Erbakan va être isolé sur la scène internationale, mais aussi isolé donc sur le plan intérieur, et chassé par l'armée lors du coup d'État de février 1997.
Alors après ce premier échec, celui qui va arriver, c'est le maire d'Istanbul qui va mettre en place une nouvelle stratégie du parti religieux, c'est Erdogan. Alors peut-être un mot
sur Tayyip Erdogan. Alors qui est Tayyip Erdogan? C'est le fils spirituel de Necmettin Erbakan. Ça il faut bien le comprendre. C'est donc Tayyip Erdogan, c'est la figure en fait du coq du village en Turquie. Hein. Il est originaire en fait, c'est un Laz. Qu'est-ce que c'est qu'un Laz en Turquie? Ce sont les habitants de la mer Noire, du bord de la mer Noire. Quand vous regardez Erdogan, il a les yeux bleus. Hein. Les Laz en fait, ce sont des populations plus ou moins géorgiennes islamisées. Hein. C'est leur origine. Et donc c'est une victime de l'exode rural. Il est venu avec ses parents à Istanbul dans les années 50. Il est né dans le quartier de Kasım Pasha, hein, qui est l'un des quartiers les plus bigarrés d'Istanbul, là, donc où gitans, gypsies et les pègres se côtoient allègrement. Et son père était quelqu'un d'extrêmement religieux, un homme austère, hein, qui était capitaine de ferry, bon, et qui a vraiment eu beaucoup d'influence sur Erdogan, puisqu'il l'a vraiment élevé dans la foi. Et Erdogan, très tôt, se partage entre deux passions. D'un côté, donc, le football, hein, puisqu'il était un fan de football et qu'on en aimait, certains de ses amis l'appelaient même l'imam Beckenbauer, et la politique. Il s'engage très tôt en politique, dès l'âge de 14 ans, dans la droite radicale, au sein, en fait, tout d'abord de l'Union nationale des étudiants turcs, hein, qui était l'équivalent, donc qui était l'une des matrices de formation de la droite, des cadres de la droite radicale turque dans les années 70, et aussi de ce qu'on appelle les Akıncılar, c'est-à-dire les purs, donc qui étaient la branche jeune du parti islamiste de l'école, du parti islamiste de l'époque, le parti du salut national. Donc Erdogan va faire ses preuves. Dans les années 80, il travaille dans une entreprise, Ülker, qui est une entreprise très liée à l'islam politique, enfin à l'islam, ce qu'on va appeler l'islam de marché, on va le voir tout à l'heure. Et en 1995, il devient maire d'Istanbul. Et là, il s'affirme déjà comme un rival possible pour Erbakan. Mais Erdogan comprend très vite que, en fait, les attaques frontales d'Erbakan, en fait, ont plus été, comment dire, néfastes à l'islam politique qu'autre chose, et il comprend très vite qu'il va falloir donc réformer ce parti et le vocabulaire en profondeur.
Alors il va rassurer le monde extérieur sur cette révolution islamique qui va devenir disons une révolution conservatrice, et sa grande idée c'est qu'il va se servir de l'Europe pour transformer la société en profondeur, mais c'est surtout pour affaiblir l'armée. Il va se
Totalement. Alors, tout d'abord, bon, il faut bien comprendre que l'échec des islamistes en 1997 les a profondément traumatisés, les islamistes turcs. Hein.
Donc, échec fondateur.
Donc, c'est un échec fondateur. Ils se sont dit, à partir de ce moment-là, faut qu'on revoie entièrement nos méthodes. Donc, aussi bien sur le positionnement stratégique en interne qu'en externe. En interne, c'est simple. Bon, ils avaient l'étiquette islamiste. Mais le problème en Turquie, c'est que les partis de centre-droit, les partis de droite traditionnels, pendant très longtemps, ont catalysé eux-mêmes un électorat religieux et conservateur. Donc l'idée d'Erdogan, c'est très simple, ça va être de faire l'union de la droite, du centre-droit, hein, de la droite classique, libérale, conservatrice, jusqu'à l'extrême droite. Et il va profiter, en cela, en fait, de l'effondrement des partis de centre-droit qui s'étaient complètement englués dans divers scandales mafieux et politico-financiers. Il va créer le Parti de la Justice et du Développement, donc il va faire cette synthèse, l'AKP. Donc, juste pour l'anecdote, AK en Turquie, en turc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pur. Donc, en d'autres termes, AKP, ça signifie le Parti des Purs. Donc, en filigrane, on retrouve toujours une connotation à caractère religieuse. Ce parti, donc, ne se réclame plus de l'islam politique. Au contraire, justement, ils disent qu'ils ont tourné la page. Ils sont démocrates et conservateurs. Alors comment il faut entendre ces deux termes ? C'est extrêmement subtil. Démocrate, c'est-à-dire qu'il représente le peuple. Le peuple en Turquie, on va le voir, c'est un peuple qui a toujours été, s'est toujours senti brimé par ses élites, laïque et républicaine. Donc le peuple en Turquie, c'est le pays réel. C'est ce peuple noir, ce sont ces Turcs noirs, religieux et conservateurs. Qu'est-ce que c'est le conservatisme en Turquie ? C'est tout simplement la tradition. Et qu'est-ce que c'est que la principale tradition nationale ? Eh bien c'est l'islam. Donc c'est une autre façon de s'affirmer, hein, d'affirmer en fait des termes à caractère politique, à caractère islamiste, hein, avec des mots nouveaux, même en réutilisant les termes de l'adversaire. Et ça, on va le voir tout particulièrement sur la scène internationale, où là, qu'est-ce qui va se passer ? Erbakan va se présenter au monde occidental comme étant l'homme qui sera capable de faire l'âge mentaux entre la modernité et l'islam. Donc, dès la fin des années 90 et dès le début des années 2000, notamment avec le 11 septembre, Erdogan va établir son nombre de contacts, aussi bien aux États-Unis que dans l'Union européenne, mais surtout aux États-Unis, avec certains milieux néoconservateurs. Alors, ça peut peut-être vous surprendre, mais les milieux conservateurs et néoconservateurs aux États-Unis ne sont pas du tout hostiles à l'AKP. Bien au contraire, même disons qu'ils se reconnaissent dans les grands thèmes, dans les grands canons du conservatisme turc. Puisque d'un côté comme de l'autre, qu'est-ce qu'il s'agit de faire ? Eh bien, de défendre les valeurs traditionnelles, de défendre l'économie de marché. Bref, et enfin la démocratie. Finalement, on se retrouve. Donc c'est pour ça que lorsqu'on reprend par exemple le manifeste idéologique de l'AKP, écrit par Yalçın Akdoğan, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce manifeste idéologique qui a pour titre « démocrate et conservateur » ? Des tirades entières, des citations entières de Hayek ou de Burke, hein. Donc il y a une grande similitude entre le conservatisme anglo-saxon et le conservatisme turc. Et ça se retrouve notamment sur la question de la laïcité.
Oui, et puis ils ont...
Et même, oui, sur la critique de la Révolution française, il faut dire les choses.
Sur la critique de la Révolution
puisque
française.
Puisque la Révolution française, pour les Turcs, est assimilée au kémalisme, tout simplement.
Voilà, sur le rôle de l'État, de moins en moins d'État.
Donc
effectivement, c'est une sorte de mélange de l'école autrichienne avec une religion façon protestante.
Exactement.
Les Américains le disent, chez nous on a la Bible, ils ont le Coran,
exactement.
Donc ça ne les dérange pas.
Puisqu'il faut savoir qu'aux États-Unis, la laïcité, bon, est quand même, c'est une laïcité positive, et lorsqu'on prête le serment lors d'un jugement, ou lorsque le président prête serment, il prête serment sur le livre religieux de son choix.
Alors, il y a un personnage aussi central dans la nouvelle équipe d'Erdogan, c'est son ministre des Affaires étrangères, c'est Ahmet Davoglu, c'est ça ?
Oui, Ahmet Davoglu.
Qui défend, je vous cite, une approche civilisationnelle des relations internationales. En gros, il met fin à cette neutralité kémaliste et il va s'ouvrir à trois ensembles distincts. Vous parlez du le monde musulman du sud, l'Eurasie à l'est et l'Occident à l'ouest. C'est nouveau ça pour la Turquie ?
Oui, c'est nouveau et en même temps, il y a son autre thème déjà ancien. Bon, alors tout d'abord, pour résumer la politique extérieure du kémalisme, il faut savoir que dans les années 20-30, c'est une politique à caractère nationaliste et autarcique, hein, qui a pour slogan « Paix dans la patrie, paix dans le monde ». Donc à partir du moment où on ne provoque pas d'ennui à l'intérieur, on ne provoquera pas d'ennui à l'extérieur. Donc cette politique, grosso modo, va demeurer la même jusque dans les années 90. Il n'y a pas à voir beaucoup d'inflexion. Mais malgré tout, hein, la Turquie va vivre en quelque sorte coupée de son environnement régional extérieur. De cet environnement régional, donc de ses pays voisins, avec lesquels, malgré tout, elle a un certain nombre de points communs, ne serait-ce que l'islam. Donc, Davutoğlu, qui est le ministre des Affaires étrangères, critique justement cette amnésie qui a vu la Turquie oublier donc ses racines culturelles. Et pour Davutoğlu, en quelque sorte, la Turquie doit renouer avec le passé ottoman, avec une certaine diplomatie ottomane. Et par ordre de priorité, pour lui, la Turquie doit d'abord s'intéresser donc aux pays musulmans, au sud, au monde arabo-musulman. Et ce monde arabo-musulman, la Turquie peut très bien en devenir le leader. Ensuite, elle doit s'intéresser à l'Eurasie, donc à l'Asie centrale avec l'espace turcophone. Et enfin, en dernier lieu, de façon moins importante, donc à l'Europe avec l'ère balkanique.
Alors, vous parlez même d'un paradoxe dans la politique de la KP, c'est, je vous cite, arracher la Turquie de l'Occident, la ramener dans le monde musulman et transformer l'islamisme selon des principes anglo-saxons.
Exactement, oui, c'est exactement ça.
Alors, il y a un autre grand tournant dans la politique turque, ça va être au moment de la guerre en Irak. Et son refus de voir les troupes américaines passer sur son territoire. Et là aussi, le pouvoir va très subtilement jouer avec les militaires qui, eux, sont contre la guerre pour des raisons de politique intérieure. Le fait que les Américains s'appuient sur les séparatistes kurdes. Mais le gouvernement qui a pris fait et cause pour la guerre, pour rassurer Washington, va voter contre le passage de l'armée américaine, ce qui ne les met pas trop en porte-à-faux avec son opinion publique, et en même temps de pouvoir dire, regardez, c'est l'armée qui a condamné l'arrivée des Américains sur le territoire.
Exact. Les politiques ont fait de la politique.
C'est un coup de génie, ça s'est joué à trois voix près, mais il faut savoir aussi qu'au sein même du gouvernement turc, il y avait deux tendances qui s'opposaient. Tout d'abord, les pragmatiques qui étaient groupés autour d'Erdogan à cette époque-là, qui disait, les Américains nous ont quand même donné un sacré coup de main, ils nous ont dédiabolisé, donc au regard de la communauté internationale, ils nous aident à entrer dans l'Union Européenne. On s'est engagé quand même, moi, Erdogan, je me suis personnellement engagé, puisqu'il y a eu des rencontres à Washington au début des années 2000 sur ce sujet, sur l'Irak, on ne peut pas leur dire non. De l'autre côté, il y avait déjà Abdullah Gül, donc qui est l'actuel président de la République turque, qui lui avait à cette époque-là comme conseiller diplomatique Ahmet Davutoğlu. Et Ahmet Davutoğlu disait, non, que c'est dangereux, on va faire, si on fait ça, justement, ça va redonner aux Arabes la vieille image de la Turquie comme un pays pro-occidental, laqué, justement, du sionisme et des États-Unis. Non, je freine quatre fers, la Turquie a une autre carte à jouer, justement, et un nom, justement, qui viendra de la Turquie pourra impressionner le monde arabo-musulman. Donc, ce serait beaucoup plus intéressant de jouer cette carte-là, même si on doit décevoir nos alliés américains.
Surtout qu'ils ont demandé aux Américains de pouvoir rentrer sur le territoire kurde qui leur a été refusé. Donc,
exactement, oui.
Alors, cette Amérique, après ce coup d'éclat, l'Amérique de Bush, et même, comme on le disait tout à l'heure, celle d'Obama voit plutôt une évolution positive de ce gouvernement. Elle va effectivement aider les Turcs à vouloir rentrer dans l'Union Européenne. Qu'est-ce qui rapproche, alors on a déjà un peu parlé, mais qu'est-ce qui rapproche les Américains et les islamistes Erdogan? Quels sont leurs points communs sur le plan géopolitique?
Alors, tout d'abord, sur le plan, on va dire, tout simplement philosophique ou religieux, une petite anecdote. Lorsque George Bush, pour la première fois de sa vie, a accueilli Erdogan en visite officielle à Washington, à la Maison Blanche, il lui a dit « Vous croyez en Dieu et moi je ne crois qu'en lui, donc nous allons très bien nous entendre ». Donc déjà, il y a cette foi, cette transcendance en commun. Ensuite, il faut savoir que Américains et Turcs entretiennent des rapports étroits depuis donc la fin des années 40, donc depuis la guerre froide. La Turquie comme la deuxième armée de l'OTAN, ça a été très longtemps donc le pilier du flanc sud de justement du dispositif occidental contre l'Union soviétique. Et que les beaucoup de Turcs, que ce soit les militaires ou les politiques, ont été formés en fait aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Abdullah Gül parle parfaitement anglais. Il a fait ses études à Londres, des études de commerce d'ailleurs. Et aujourd'hui, donc, cette, toute la nouvelle classe d'entrepreneurs islamistes, dont on va parler tout à l'heure, tous ces tenants de l'islam de marché, ont été formés aux méthodes de management dans les pays anglo-saxons.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie, dans les Chroniques de la Vieille Europe, et on reçoit, et nous sommes en train de parler de la nouvelle puissance turque avec le livre de Tancred Josserand aux éditions Ellipse. Alors, la grande force de l'AKP, c'est le soutien inconditionnel des nouvelles élites économiques qui viennent directement des confréries religieuses, qui ont pourtant été interdites depuis 1950. Un mot d'explication sur ces confréries
Oui, alors qui sont ces confréries religieuses? En fait, elles remontent à l'Empire ottoman, donc ce sont des confréries soufis. Et donc ces confréries soufis, par le biais de la prière, donc on va passer très rapidement sur le sujet, mais je résume, hein, donc essayent d'atteindre l'extase, donc la communication, la fusion avec le divin. Donc ces communautés religieuses, il y en a un certain nombre en Turquie. La principale, c'est la communauté des Nakshibendis. Ensuite, les Nakshibendis sont séparés en plusieurs branches, en plusieurs tronçons. Et donc, elles irriguent en fait toute la société en Turquie, et notamment sont très actives dans l'éducation et dans tout ce qui est caritatif.
Alors, vous parlez par exemple d'un moment de la confrérie de Fethullah, c'est ça,
Fethullah Gülen, oui.
Qui ayant un budget de 25 milliards de dollars, on n'est pas très loin des fondations religieuses américaines. Sont-elles sur le même principe?
Oui, totalement. Elles sont sur le même principe. Il faut savoir que Fethullah Gülen a toujours eu des liens extrêmement étroits avec les États-Unis. D'aucuns disent même qu'il est un. Enfin, bon, on va même dire, pour dire les choses clairement, que Fethullah Gülen est très proche de la CIA. Il y a son nombre de faits avérés qui le démontrent. Donc, Fethullah Gülen vit à l'heure actuelle aux États-Unis, en Pennsylvanie. Régulièrement, il touche des fonds, la CIA verse des ensembles de fonds. Et puis, qu'est-ce qu'il a? C'est surtout ça, justement, le plus important chez Fethullah Gülen, c'est son réseau éducatif. Il a plus de 200 écoles à travers le monde, dans tous les pays musulmans, du Maroc à l'Indonésie, en passant par l'Asie centrale, qui ont pour objectif de former les cadres, donc les nouveaux dirigeants de ces États. Et c'est tellement criant, cette influence est tellement forte que dans certains pays d'Asie centrale, notamment dans le Caucase, dans certaines régions du Caucase, par exemple, la Russie n'a pas hésité à interdire ses écoles. Puisque pour la Russie, ces écoles sont extrêmement liées à la CIA.
Alors, là, on a vu la partie économique. Il y a quand même une grande bataille que mène encore l'AKP, c'est cet affaiblissement de l'armée. Où en est l'armée? Quel est encore son pouvoir et son influence dans la société turque aujourd'hui?
C'est un pouvoir qui diminue chaque jour, puisque en fait, l'armée avait ce qu'on appelle le Conseil de sécurité nationale. Pendant plus de 40-50 ans, l'armée a pu dominer la vie politique turque, c'est-à-dire que c'était un conseil où ne siégeaient que des militaires, qui étaient placés au-dessus du gouvernement. Et ce conseil, par une simple motion, pouvait demander donc au gouvernement de se démettre. C'est ce qu'il a fait en 1980, c'est ce qu'il a fait en 71, c'est ce qu'il a fait en 80, c'est ce qu'il a fait en 97. Quel a été le jeu extrêmement subtil des islamistes? Ça a été de se dire... Cette Europe que nous avons tant vilipendée comme étant un club chrétien sous influence maçonnique, l'antre de la décadence la plus absolue, et si finalement cette Europe n'était pas le meilleur parapluie, le meilleur bouclier contre l'arbitraire jacobin du kémalisme et du militarisme? Et ils ont fait le bon calcul. Leur calcul était le suivant, c'était avec l'Union Européenne, il y a plus de démocratie, avec plus de démocratie, il y a moins d'armées, et moins d'armées équivaut à moins de laïcité, et donc plus d'islam. Donc ils ont joué extrêmement bien la chose, et depuis 2003, donc ce ne sont plus des militaires qui siègent au Conseil de sécurité nationale, c'est un civil, et les avis ne sont plus donc comitatoires, donc on n'a plus à les exécuter de façon obligatoire.
Alors il y a un jeu assez surprenant, c'est-à-dire que pour rentrer dans l'armée, pour être officier, faut être un bon musulman, pas boire d'alcool, etc. Et de l'autre côté, l'armée est capable de congédier certains.
Alors non, c'est pas ça. C'est-à-dire que l'armée en fait.
Alors j'ai pas tout compris.
Allez-y. Non, c'est-à-dire justement, c'est quand même bien d'être un bon musulman, mais sur un plan identitaire, donc d'être musulman et turc. Mais après, il y a des limites à pas dépasser. C'est-à-dire que celui qui a une épouse voilée, celui qui aussi ostensiblement en Ramadan ne boit justement fait le Ramadan, il ne boit pas d'alcool, bon, a une attitude, on va dire, un peu trop stricte, eh bien, il est fiché. Hein, puisque dans les lycées militaires, notamment, on fonctionne comme ça. Tous les jeunes officiers, les officiers sont fichés. Et notamment sur l'orientation religieuse. Donc, il y a des limites à pas dépasser. Et effectivement, chaque année, il y a un conseil militaire qui, en fonction, justement, bah, de ces, des dérives qui sont observées, peut exclure les soldats turcs.
Oui. C'est comme ça que on peut...
Lucien Valdès.
Oui.
Les purges qu'il y a actuellement au sein de l'armée, est-ce que ça fait partie de cette bataille que se livrent d'un côté les
alors, l'AKP non,
contre les militaires?
Oui, alors justement, et... c'est-à-dire que l'AKP, par exemple, au mois d'août dernier, a empêché justement l'armée de procéder à ces purges. Chaque année, donc, l'armée procède justement à une cinquantaine d'exclusions en général. Et cette année, elles n'ont pas pu avoir lieu puisqu'Erdogan s'y est opposé. Alors que justement, c'était la première fois en Turquie que justement le gouvernement s'y oppose et qu'aucun gouvernement ne s'était jamais opposé auparavant. C'est-à-dire qu'ils se sentent, les islamistes aujourd'hui se sentent assez forts pour s'opposer frontalement à l'armée. Par ailleurs, il faut savoir que l'armée aujourd'hui s'est affaiblie puisqu'ils ont aussi été également infiltrés par les confréries religieuses, notamment par la confrérie de Fethullah Gulen. Donc on a un certain nombre là de faits avérés où on retrouve dans la presse des comptes rendus entiers de conférences d'état-major, sur YouTube, des enregistrements, juste pareil, de comptes rendus sur le futur plan, par exemple, d'opérations qui aura au Kurdistan, etc., etc. Bref. On retrouve aussi le fameux plan Marteau, le plan Bayoz, qui s'est retrouvé comme par hasard dans la presse en entier. Bon, tout ça n'est dû en fait qu'à la présence de taupes infiltrées depuis environ 10-15 ans, hein, en fait depuis la fin des années 90, qui ont réussi progressivement à monter les échelons de l'armée turque et qui aujourd'hui se trouvent à des échelons assez élevés. Alors donc il y a un climat de suspicion, il y a eu un nouveau chef d'état-major qui a été nommé au mois d'août après, alors ça a été tout un psychodrame.
On a même parlé de ce fameux général de l'armée de l'air qui a fait envoyer, qui a fait envoyer ses avions tourner autour du tribunal pour influencer les juges, pour leur dire attention, on va vous glacher une...
Exactement. Mais bon, l'armée à l'heure actuelle, disons qu'il sort extrêmement affaiblie de ses épreuves, donc elle est divisée entre des jeunes officiers qui voudraient à tout prix agir, hein, et puis des officiers généraux plus âgés qui savent pas très bien comment prendre le bout du problème. C'est-à-dire ils se disent les coups d'État, on a déjà essayé. Le problème, c'est que 80-97, à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? La force politique en face du pouvoir, eh bien, on a beau interdire le parti, il se reforme sous un autre nom. Il adopte un nouveau langage, il se relook en quelque sorte, et 5 ans plus tard, on les a de nouveau automatiquement au pouvoir. Bon. Alors, que faire contre ce phénomène? Donc, un coup d'État ne pourrait pas résoudre la question. Donc, il cogite. Alors, pour eux, il y aurait deux solutions. Tout d'abord, réactiver la rhétorique patriotique, notamment sur la question du Kurdistan. Bon, en accusant justement les membres de l'AKP de faire le jeu des Kurdes, puisque les membres de l'AKP, eux, privilégient le lien religieux sur le lien national. Et donc, en fait, les gens de l'AKP ne seraient pas hostiles à une décentralisation de la République turque, voire même à une certaine autonomie des Kurdes qui votent en masse pour l'AKP.
Ils vont assez loin, parce que dans un de ces discours, le message de l'AKP, c'est, je vous cite dans votre livre, « Nous avons souffert de l'idéologie kémaliste et des militaires autant que vous. » Quand nous serons au pouvoir, notre première priorité sera de redéfinir l'État et de déconstruire l'idéologie kémaliste.
Exactement.
Donc ils font quasiment une alliance avec les Kurdes. Enfin, ils leur promettent
De facto, même, il y a une alliance, effectivement, puisque quand on regarde les principales confréries, à l'heure actuelle, la confrérie de Fethullah Gulen est très implantée dans le sud-est de la Turquie. Par ailleurs, beaucoup des conseillers d'Erdogan sont kurdes, hein, je pense à Mehmet Metiner ou d'autres. Hein. Bon, et ce facteur kurde est extrêmement prégnant. Donc c'est pour ça que les kémalistes accusent justement les membres de l'AKP de faire le jeu du séparatisme. Alors, la deuxième solution pour les militaires face à l'AKP, ce serait tout simplement de tourner radicalement le dos à l'Occident et aux États-Unis. Il y a un courant idéologique à l'heure actuelle qui a une certaine influence, un certain écho parmi les militaires turcs, même parmi les milieux, on va dire, nationaux, enfin plutôt souverainistes, hein, c'est les milieux où Soulagi, hein, ça rassemble aussi bien des milieux de droite que des milieux de gauche, qui en fait voudraient se tourner vers une forme d'Eurasie. Alors, l'eurasisme, on connaît, c'est donc, ça a été théorisé par Alexandre Dugin, mais bien avant aussi, il y a eu d'autres penseurs eurasistes en Russie, notamment, je pense, à Léonid Tiev, ou à celui qui est mort en 1991 à Moscou, j'ai son nom sur le bout de la langue.
Oui, je vois.
Celui qui a écrit Ethnogenèse et Biosphère.
Oui, mais si un auditeur s'en rappelle.
Bon, tout d'un coup, j'ai un trou. Et donc, eux, c'était des penseurs russes qui prenaient une alliance, justement, entre les peuples jeunes du continent eurasien. Donc, qui sont les deux peuples jeunes? Ce sont les peuples des forêts, donc les peuples slaves, et le peuple de la steppe, le peuple turc. Et à eux deux, justement, ils pourraient refonder une union continentale, une espèce de nouvel empire de l'ordre d'or, un nouvel empire de Genghis Khan qui pourrait, comme ça, résister au ressac des puissances maritimes, hein, et s'affirmer comme indépendant.
Donc, c'est quand même assez minoritaire.
C'est assez minoritaire, mais c'est des milieux influents, très influents dans les milieux militaires, hein. Il y a même eu des militaires qui ont fait, alors qu'ils étaient encore en poste, qui ont fait des déclarations sur le sujet en disant qu'il fallait maintenant que la Turquie rompe avec l'Occident et se tourne vers l'Iran, vers la Russie, voire même vers la Chine.
Alors, le problème, c'est que tant que la Turquie soit à 7 ou 8% de croissance, ils ont quand même énormément de mal, je pense, à prendre le pouvoir donc, à ce niveau-là.
Disons que la Turquie aujourd'hui est à 10% de croissance et que plus de la moitié des échanges, voire plus des deux tiers des échanges, se font avec l'Union européenne. Bon, alors ça poserait un certain nombre de difficultés.
Alors, sur le plan international, on a vu de nouvelles dispositions prises sur le plan du Moyen-Orient. On a vu cette nouvelle hostilité il y a maintenant quelques mois avec Israël, cette volonté de rentrer en Europe, son jeu d'équilibre avec Washington, son rôle même avec le Brésil. Quel est l'objectif final? Devenir une puissance incontournable entre l'Orient et l'Occident?
Oui, la Turquie, justement, selon Davoulou, elle veut redevenir donc une puissance, le pays, l'empire du milieu. Donc, c'est-à-dire ce pays Janus qui regarde à la fois vers l'Orient et vers l'Occident, bien entendu que son identité soit plus orientale qu'occidentale. Donc, ce qui était aussi la place de l'Empire ottoman auparavant, mais aussi la place de l'Empire byzantin. Donc, un pont. Mais qu'est-ce que c'est qu'un pont? C'est une entité qui n'appartient à aucune, justement, des points qu'il est censé relier. Voilà, il est entre les deux. L'idée aussi, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la Turquie, c'est au sein du G20, c'est la 17e puissance mondiale. Hein, en termes de PNB. Donc la Turquie veut jouer à tout prix cette place de carrefour, mais en même temps, pour les islamistes, il faut quand même la Turquie doit quand même s'affirmer comme une puissance islamique, comme une puissance musulmane. Et l'idée des islamistes serait donc de prendre la tête d'un bloc islamique, mais comment dire, pas à proprement dire anti-occidental, comme l'Iran. Ce serait plutôt donc toujours cette idée de réconcilier l'islam et la modernité, d'avoir sa propre voie vers la modernité, tout en n'étant pas forcément hostile à l'Occident. Hein, donc c'est pour ça aujourd'hui, à l'heure actuelle, que la Turquie préside l'organisation de la conférence islamique et qu'elle y tient plutôt un rôle de modérateur.
Il y a une réelle, au Moyen-Orient, il y a une réelle rivalité avec l'Iran?
Alors, il y a une rivalité, oui et non, mais en même temps, entre l'Iran et la Turquie, ils ne se sont pas fait la guerre depuis 1636. Donc, il y a une rivalité, il n'y en a pas. C'est-à-dire que chacun des deux pays regarde dans deux directions différentes. L'Iran est plus, comment dire, tend plus son regard vers le golfe Persique, et la Turquie plus vers l'Occident ou vers le monde arabo-musulman. Bon, et même en Asie centrale, il n'y a pas trop de friction, hein. Le seul pays d'Asie centrale qui est persanophone, c'est le Tadjikistan. Bon, et là, il n'y a jamais eu vraiment de problème entre turcophones et persanophones.
Comment vous expliquez, on en a parlé et reparlé, mais comment vous expliquez cette brouille avec Israël? Est-ce qu'elle est passagère ou est-ce qu'il y a profondément un changement, un tournant?
Oui et non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors les journalistes font beaucoup d'effets de manche en disant c'est épouvantable, ça y est, la Turquie est repartie vers l'Orient, etc., etc. Non, dans la mesure, il faut quand même, si on se reporte à l'histoire longue, hein, bon, au temps long, on remarque que dès les années 70, la Turquie a pris des positions extrêmement sévères avec Israël. Et à cette époque-là, la Turquie était dirigée par un gouvernement qui était kémaliste. Il faut savoir qu'en 1975, la Turquie a quand même voté la résolution aux Nations Unies qui condamne Israël comme un État raciste et impérialiste. Ensuite, il faut savoir qu'en 1980, lorsqu'Israël a pris Jérusalem comme capitale, eh bien, la Turquie, Ankara, c'était les militaires qui gouvernaient à l'époque, ont immédiatement rétrogradé, justement, le degré de leur relation au sein, enfin, la représentation diplomatique turque au simple rang, justement, d'un chargé d'affaires. Et cela, jusqu'au début du processus de paix en 1993. Donc ces tensions, elles ne sont absolument pas nouvelles entre la Turquie et Israël. La Turquie, même si elle a été l'un des très rares pays musulmans à reconnaître Israël dès 1949, la Turquie, justement, a toujours été extrêmement prudente. En fait, la Turquie a toujours plus ou moins, la guerre d'Israël, suivi la même politique que la France. C'est-à-dire, on reconnaît Israël comme un fait acquis, mais en même temps, on condamne sévèrement toutes les entorses que fait Israël sur le droit international. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu des possibilités de travail en commun entre la diplomatie turque et la diplomatie française au Moyen-Orient sur ce dossier-là.
Lucien Valdès.
Sur cette question-là, Tancrède Josserand, on voit malgré tout qu'il y a une escalade.
Oui, il y a une escalade, mais il faut savoir aussi d'où on vient. C'est-à-dire qu'il y a eu un rapprochement aussi israélo-turc dans la fin des années 90. Notamment, donc, à partir de 96, 80, 97. Les Turcs et les Israéliens avaient besoin de s'entendre contre la Syrie et aussi contre les Grecs, puisqu'il y avait un axe en fait qui s'était créé, un axe Athènes-Damas-Téhéran, à la fois dirigé contre la Turquie et même dans une certaine mesure plus ou moins contre Israël. Donc les Iraniens et les Syriens soutenaient, et les Grecs d'ailleurs aussi soutenaient les terroristes kurdes contre les Turcs, notamment pour des histoires, vous savez, d'eau, puisque la Turquie est le château d'eau du Moyen-Orient, et que les Syriens reprochaient aux Turcs de leur couper en fait le robinet. Et en échange, donc, les Syriens, que faisaient les Syriens, eh bien, soutenaient le terrorisme kurde. Donc la Turquie a eu besoin de trouver un allié de revers, il l'a trouvé en la personne des Israéliens. Et les Israéliens étaient aussi bien contents de trouver un allié de revers avec la Turquie qui pouvait menacer le flanc nord de la Syrie. Bon, mais rapidement, on l'a vu, la situation a évolué et les rapports ont commencé à se distendre dès les années 2000. Mais bon, en même temps aussi, il n'y a pas de véritable rupture de relations entre les deux pays. C'est-à-dire que l'industrie militaire israélienne aujourd'hui, elle fournit toujours des armes à l'armée turque.
On est plus dans une diplomatie du verbe que de la réalité.
Exactement, on est toujours... Vous avez très bien résumé, c'est-à-dire que... On va prendre un autre exemple. Erdogan, en 2008, lorsqu'il y a eu des émeutes dans la partie turcophone du territoire chinois, donc le Xinjiang, dans le Turkestan chinois, eh bien, Erdogan a eu des mots extrêmement durs à l'égard des Chinois, en parlant de génocide. Bon, et pourtant, sur un plan diplomatique, il n'y a eu aucune représaille, rien ne s'est suivi. Et les Turcs et les Chinois entretiennent à l'heure actuelle de très bonnes relations. Il n'y a pas de problème. Donc on est vraiment dans une diplomatie du verbe, c'est le Moyen-Orient, c'est l'Orient. Je veux dire, tout est dans le verbe, tout est dans la parole. Et après, bien entendu, les choses ne suivent pas. Et ce sont beaucoup plus des mots qui sont destinés à son opinion publique que vraiment des paroles qui sont destinées à être suivies des faits. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Surtout dans une période électorale comme celle de cette année, hein, puisqu'il y a les élections législatives l'année prochaine.
Alors, je sais pas trop, ça va être ma dernière question, mais je pense que Lucien Valdès en aura d'autres, puis on a une ou deux questions d'auditeurs. Ce modèle turc pourrait-il faire tache d'huile en Orient, et pourquoi pas aussi dans notre vieille Europe? Après tout, la France et l'Allemagne ont aujourd'hui plus de 6 millions de musulmans. Dans un avenir lointain, la Turquie pourrait imposer un modèle américain dans le système.
Ah oui, totalement. Justement, européen. C'est aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est bien ce que défendent les partis disant l'entrée dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le discours de ces gens qui veulent à tout prix faire entrer la Turquie dans l'Union européenne, c'est plus tellement de dire la Turquie est un modèle de laïcité, etc. C'est plutôt de nous dire non, regardez, la Turquie, c'est un modèle de pays musulman modéré. d'islam modéré, de démocratie islamique. Donc, on aurait tout à gagner, pour éviter un choc de civilisation, à faire entrer la Turquie. D'ailleurs, c'est le discours des islamistes turcs qui disent que la Turquie, en fait, que l'Europe doit être culturellement neutre. Pourquoi elle doit être culturellement neutre ? Parce que l'Europe doit être un mélange de civilisations. Qui dit mélange de civilisations dit que chaque civilisation doit rester distincte, hein, et ne pas se mélanger. Hein. Donc, les civilisations toutes à échanger à condition qu'elles restent distinctes. Mmh. Donc ça, c'est la grande idée des islamistes turcs. C'est pour ça, notamment, qu'ils sont capables à la fois de prôner donc l'adhésion à l'Union européenne, tout en disant qu'ils n'ont pas à se conformer aux directives de Bruxelles, hein, par exemple sur la réforme du code pénal, qui les islamistes avaient fait une réforme sur le code pénal qui prévoyait de pénaliser la femme adultère. Bon, l'Europe a poussé des cris et qui a répondu à Erdogan. Erdogan a répondu tout simplement que, eh bien, les Turcs n'avaient pas à se conformer aux normes décadentes en vigueur en Europe.
Ils ont même été soutenus par certains conservateurs américains.
Et ils ont même été soutenus sur le sujet par certains conservateurs américains.
Alors moi,
Lucien Valdès.
Oui, je voudrais revenir, Tancred Josserand, sur cet islam des marchands. Vous y consacrez un chapitre de votre livre, La Nouvelle Puissance Turc, paru aux éditions Ellipse, je le rappelle. Quand est-ce que on peut chiffrer sa naissance, quand est-ce qu'on...
Alors, voilà. Tout d'abord, c'est une question à caractère sociologique. C'est-à-dire que la Turquie est divisée en fait entre deux populations, ce qu'on appelle les Turcs blancs et les Turcs noirs. Qui sont les Turcs blancs ? Les Turcs blancs, ils sont laïcs, occidentalisés. En fait, ils ressemblent comme vous et nous. Enfin, ce sont grosso modo des Européens islamisés. Hein. Ce sont en général des Balkaniques. Ils habitent le pourtour de la mer Égée et la Thrace. Hein. Donc, ce sont les Turcs blancs. C'est environ 20% de la population. À ces Turcs blancs s'opposent l'immense majorité de la population, ce qu'on appelle les Turcs noirs, qui sont plus nombreux, plus conservateurs et plus croyants. Et donc ces Turcs noirs, depuis 1923, ont été expulsés des leviers de commande à la fois politiques mais aussi économiques du pays. Et progressivement, à partir en fait, on peut faire remonter ça à partir des années 80, hein, des 1980 et des premières directives de libéralisation, des premières directives du FMI, eh bien va se constituer en fait une bourgeoisie religieuse islamique. Donc, qui va commencer à émerger à cette époque-là, et elle va se former justement à la dure loi d'Airain de l'économie de marché, puisque c'est une bourgeoisie ce sont des entrepreneurs qui n'ont jamais été reçus aucune subvention de la part de l'État. Donc, ils vont se débrouiller tout seuls. Et ils vont progressivement se former en réseau, notamment grâce aux confréries religieuses, et former leur propre patronat. Alors, idéologiquement, ils justifient ça très bien, puisqu'ils disent que Mahomet, c'était tout simplement un homme d'affaires. C'est vrai. Mahomet était un homme d'affaires au temps des caravanes. Et l'islam, à l'époque de Mahomet, c'est une première, on peut parler quasiment aussi de première mondialisation, puisque le fait de commercer à l'époque, c'était aussi un vecteur de religiosité. C'est comme ça que s'est transmis l'islam, par le biais des caravanes. Et donc, en quelque sorte, les islamistes turcs veulent transférer cette rage, parfois cette frustration qu'ils pouvaient avoir sur un plan politique, ils veulent le transférer justement dans une attitude positive, hein, on pourrait reprendre ce terme de management, dans le marché. Et donc on assiste à la création de toute une série d'étiquettes, d'entreprises à caractère halal, islamique. Alors ça va notamment sur les questions de l'habillement. Hein, dans le domaine de l'habillement, alors on voit par exemple se vendre des voiles qui sont très proches du prêt-à-porter, c'est-à-dire que le voile au départ c'est quoi ? C'est un instrument qui doit cacher justement la femme à la lubricité, à la vue lubrique de l'homme. Bon, c'est tout noir et c'est pas très attrayant. L'idée là pour ces islamo-capitalistes, c'est tout simplement de transformer le voile en objet de consommation. Donc on essaie de faire du voile donc un objet avec chatoyant qui attire l'attention avec des couleurs. Même si justement ça provoque l'effet inverse puisque ça attire l'attention. Voilà.
Bien sûr.
Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, on crée des hôtels ou même une voiture. Il y a même une voiture qui a été créée, qui est une voiture, la première voiture musulmane. Alors, il y a dedans, il y a un Coran et il y a aussi une boussole qui indique la Mecque.
Donc, on le voit aussi avec les sonneries de téléphone portable,
exactement,
etc. Exactement. Il y a toute une
gamme de produits aussi, les maillots de bain dans lesquels on peut se baigner tout en restant voilé.
Je pense qu'on fera un catalogue,
etc., etc. Mais on pourrait élargir ce genre de produits à l'infini.
Voilà, je pense qu'on aura fait le tour du sujet parce que l'heure tourne. Merci à vous, Tancrède Josserand. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie et aux chroniques des chroniques de la Vieille Europe le titre de votre livre, La nouvelle puissance turque, l'adieu à Mustafa Kemal, aux éditions Ellipse. On va faire, bien sûr, on vous conseille la lecture de votre livre, Tancrède Josserand, car il restera, à mon avis, d'actualité pour un bon moment, vu le rôle important qu'a pris la Turquie dans les enjeux géopolitiques. Alors, restez avec nous, parce que nous allons faire juste une petite pause avec l'annonce de notre repas d'anniversaire de Radio Courtoisie, et ensuite, on va prendre l'actualité, puis on posera peut-être les quelques questions des auditeurs sur la Turquie à Tancrède Josserand.
Le dimanche 7 novembre, nous célébrerons le 23e anniversaire de Radio Courtoisie. Dimanche 7 novembre, venez dîner avec nous au Duplex, à Paris, en face du 1 bis avenue Foch. Nous fêterons ensemble la langue française et nous élirons le lauréat du prix Jean Ferré. Nous tiendrons ensuite l'assemblée générale de notre association. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49 € par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée pour recevoir vos billets d'entrée. Au dimanche 7 novembre, à 19h, au Duplex, pour le repas d'anniversaire de Radio Courtoisie.
Dernière demi-heure des chroniques de la Vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie. Et avant de vous passer la parole pour l'actualité européenne, Lucien Valdès, on attendait Philippe Christel, mais je pense qu'il n'a pas pu arriver. Il doit être dans les embouteillages, encore une fois. Simplement, il y a peut-être quelques questions sur la Turquie.
Oui, et puis tout d'abord, puisque vous savez que nos auditeurs, les auditeurs de Radio Courtoisie et des chroniques de la Vieille Europe sont attentifs. L'auteur que vous cherchiez, Tancrède Josserand, c'est Lev
Gumilev.
Exactement. Voilà. Donc merci à cet auditeur. Nous avons une autre question sur notamment actuellement quelle est la situation en Turquie à propos du terrorisme.
Alors quel terrorisme, ça dépend. Il y a deux formes de terrorisme. Il y a le terrorisme islamiste et puis le terrorisme, on va dire, séparatiste, donc kurde. Sur le plan du terrorisme islamiste, bon, il y a régulièrement, enfin, de temps en temps, des attentats de cellules qui sont supposées être plus ou moins proches d'Al-Qaïda, mais on n'a pas vraiment de preuves, hein. Le dernier en date qui était le plus important, c'était en 2004, et il a fait exploser le consulat de Grande-Bretagne à Istanbul. Il y a eu plus de 50 morts. Je m'en souviens très bien puisque j'étais juste à côté, enfin, j'habitais à 30 mètres de l'endroit à cette époque-là. Le deuxième terrorisme, donc le terrorisme kurde, il se porte très bien, puisque l'armée turque, environ par an depuis 2007, perd environ 300 soldats au sud-est de la Turquie. Donc un terrorisme qui se conjugue avec une guérilla, hein, puisque les terroristes kurdes ont leur base arrière dans les monts du Kandil, au nord de l'Irak. Voilà. Et qu'en même temps, les Américains n'osent pas intervenir parce qu'ils se servent plus ou moins des terroristes kurdes du PKK, justement, pour l'Iran, c'est-à-dire qu'il y a la branche kurde, enfin la branche iranienne du PKK, le PJAK, reçoit des armes de l'armée américaine. Voilà, donc ça c'est avéré, et il faut même dire aussi que pendant très longtemps, les Kurdes ont été formés, les Peshmerga turcs ont été formés, Kurdes ont été formés par l'armée israélienne et par le Mossad.
Lucien Valdès, non, il n'y a pas d'autres questions.
Une question qui vient d'arriver. Contre la Turquie en Europe, je demande à vous entendre si ce ne serait pas un rempart contre un islamisme déchaîné.
C'est-à-dire le fait qu'on aurait une Turquie islamique en Europe serait le meilleur rempart justement contre l'islam, c'est ça ? Contre l'islamisme.
C'est ce que propose l'AKP.
Oui, c'est ce que justement combattre l'islam par l'islam, enfin combattre l'islamisme par l'islam. Bon, Je pense que les choses, à mon avis, sont beaucoup plus complexes. Mais bon.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On reparlera bien sûr de la Turquie. Je pense dans d'autres émissions. Alors Lucien Berlides,
pas plus longtemps que.
Bah oui, puisque c'est à vous. On va passer de la Turquie à l'Allemagne avec la déclaration d'Angela Merkel, considérant que le modèle multiculturel a totalement échoué. Et on pourra demander son avis à Tancrède Josserand, parce que je pense que la Turquie est un peu visée dans cette histoire-là.
Oui.
On vous écoute.
Alors, je voudrais rappeler que Philippe Christel m'a laissé quelques instructions tout à l'heure.
Ah oui, vous n'aviez pas quartier libre là-dessus. Hein. Il vous a envoyé ces sujets
exactement,
et vous devez les traiter à votre manière, bien sûr.
Pas du tout. Mais juste une, c'est une nouvelle d'importance, capitale pour les chroniques de la vieille Europe. C'est donc, figurez-vous que l'entreprise française EPEC qui fournira les tubes du gaz Nord, c'est l'entreprise française EPEC qui fournira les tubes du gazoduc Nord Stream.
Ah bah ça va faire plaisir à Philippe Christel.
Voilà. C'est un contrat de 650 millions d'euros qui va être prochainement signé par le consortium germano-russe. Et Philippe tenait absolument à ce que cette information figure en bonne place dans notre revue de presse.
Ça va peut-être équilibrer vu qu'on va perdre les contrats de l'Eurostar pour Siemens.
Exactement. Donc alors, plus sérieusement,
Angela Merkel.
Voilà, plus sérieusement, l'actualité de la vieille Europe a été marquée ces dernière semaine par les soubresauts de l'affaire Thilo Sarrazin en Allemagne. Alors, je rappelle Thilo Sarrazin, membre du parti de la gauche modérée, SPD, cet administrateur de la Bundesbank, la banque centrale allemande, qui a été poussée à la démission après la publication de son livre choc intitulé « L'Allemagne court à sa perte ». Alors je vous refais donc le film de ces deux dernières semaines. Pendant que les sondages n'en finissaient pas de plébisciter les thèses de Sarrazin, les politiques se sont positionnés en vue des prochaines élections régionales qui vont se dérouler l'année prochaine, en 2011. Et parmi eux, Horst Seehofer, le président de l'Union chrétienne sociale, la CSU, donc l'autre membre de la coalition au pouvoir, qui a lancé une attaque en règle contre la société multiculturelle qui est morte et ne pourrait pas être plus morte. Donc, il a dit ça dans le magazine Focus du 9 octobre dernier. Et il a indiqué que l'Allemagne n'avait pas besoin de davantage d'immigrants de cultures différentes. Donc, en perdition dans les sondages, la chancelière Angela Merkel a tenté, qui fait partie, elle, donc, du CDU, a tenté de courir après Seehofer pour sauver sa coalition lors d'un meeting dimanche dernier qui a fait donc la une de l'actualité à Potsdam, en faisant peu ou prou la même analyse, c'est-à-dire que le modèle allemand d'intégration dit multiculti avait échoué, totalement échoué, selon ses propos, mais que malgré tout l'immigration était nécessaire face à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Donc la chancelière s'est quand même déclarée favorable à l'immigration et a conclu son intervention en indiquant que l'islam faisait partie de l'Allemagne. Donc c'est un double discours, on le voit bien, destiné à, bien sûr, à contrebalancer l'effet d'annonce sur l'échec du multiculturalisme et à ménager son aile gauche. Alors quel bilan peut-on tirer de cette séquence ? Premièrement, si la classe politique a condamné les thèses de Thilo Sarrazin, on s'aperçoit qu'une majorité d'Allemands les approuvent. Une étude publiée la semaine dernière montre même que plus de 50% d'entre eux sont d'accord avec ces thèses et tolèrent mal le nombre de musulmans sur le sol allemand. Et plus de 35% estiment que l'Allemagne est même submergée par les étrangers. Alors, et deuxièmement, la chancelière allemande Angela Merkel, on peut le noter, a pris acte du ratage multiculturel et a même enterré le multiculti, le modèle d'intégration allemand.
Ce modèle qui avait été mis en place par l'équipe de Schröder, expliquant qu'à l'époque, on pouvait donner la nationalité allemande à ces étrangers, vu qu'il n'y avait que le droit du sang. Voilà, ce qui est à peu près il y a 10 ans.
C'était en 97, c'est en 97, mais aussi il faut savoir qu'en fait, le gouvernement allemand a demandé de choisir aux Turcs, c'est-à-dire soit ils prenaient la nationalité allemande, soit ils gardaient la nationalité turque. Donc aujourd'hui, on a 4 millions de gens qui habitent en Allemagne qui sont d'origine turque. Et sur ces 4 millions, il y en a 2,5 millions qui ont gardé la nationalité turque.
Merci pour ces précisions. Lucien Valdès.
Donc, on aura noté que la chancelière allemand, et c'est peut-être ça la surprise qui a fait la une de tous les journaux, a pris acte donc du ratage multiculturel et avec des phrases assez fortes, comme celle qu'elle a indiquée, nous n'avons pas besoin d'une immigration qui pèse sur notre système social. Troisièmement, en France comme en Allemagne. Et peut-être comme en Turquie, quoique, je ne sais pas. Dès qu'il s'agit de défendre ses intérêts, le grand patronat n'hésite pas à faire alliance avec la gauche immigrationniste, voir les déclarations du MEDEF allemand, qui ne cesse de répéter que l'immigration est vitale pour le maintien de notre prospérité.
Très bien. Il faut quand même dire qu'on est en pleine période électorale, que Angela Merkel a besoin de remuscler, donc on voit un peu, ça fait du Sarkozy un tout petit peu plus intelligent, parce que les Allemands là-dessus sont un peu plus subtils que Nicolas Sarkozy, mais au moins ils ont pris acte que c'est un échec, ce qui n'est pas encore le cas en France, j'ai pas entendu.
La situation est différente en Allemagne, c'est-à-dire qu'en Allemagne, on n'a pas le modèle jacobin, républicain, avec l'idée de laïcité. Il faut savoir qu'il y a quand même, ce qui prédomine en Allemagne, c'est la notion de concordat. Donc l'État allemand reconnaît un certain nombre de religions, le christianisme, le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme. Alors là, ils ont un problème, c'est que si jamais les Turcs qui continuent à pratiquer leur religion commencent à demander un traitement égal à celui des autres religions, là, ça pourrait très mal se passer. Donc ils sont obligés tout de suite d'utiliser l'argument religieux et culturaliste.
Il faut savoir quand même que c'est la première grosse vague d'immigration en Allemagne, qu'elle a été très rapide et que l'histoire d'intégrer ces Turcs n'a jamais été au cœur.
Oubliez non, c'est-à-dire qu'au départ, dans les années 60, lorsque les Turcs sont arrivés en Allemagne, normalement, ils devaient juste venir travailler et ensuite repartir.
Et repartir, c'était le système.
C'était le système. Mais là, en plus, les Turcs qui venaient en Allemagne voulaient vraiment repartir dans leur pays d'origine. C'est simplement à partir de la crise qu'ils ont commencé à rester. Et c'est le gouvernement turc qui leur demandait de rester. Pourquoi ? Parce que c'était l'une des plus grandes ressources de devises pour l'État turc de l'époque. Un État turc qui avait des graves problèmes économiques et qui avait justement, grâce à ces devises qui venaient d'Allemagne, des rentrées qui étaient conséquentes. Et après, donc, ils sont restés, on les a encouragés à rester, voire même à créer des écoles, etc. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir que en France aussi, il y a des écoles turques islamiques qui se sont ouvertes. Il y en a une récemment, c'est à Villeneuve-Saint-Georges qui s'est ouverte.
C'est une école qui est
liée à la confrérie Fethullah Gulen. Et le plus drôle, c'est qu'à cette école-là, il y a des profs qui sont, comme vous et moi, qui sont des soufiens dedans. Et tout simplement, qui proviennent de l'enseignement catholique. Avoue que c'est assez paradoxal.
Lucien Valdès, on passe à quoi maintenant ?
Une autre information d'importance, en tout cas qui me semble importante, c'est l'appel au secours qu'a lancé Athènes, pas plus tard que cette semaine, à l'Union européenne, puisque officiellement, Athènes, la Grèce, ne peut plus faire face. Et nous appelons l'Union européenne à assumer ses responsabilités vis-à-vis de notre pays, tout simplement. Ce qui est en cause, c'est l'immigration, puisque cette déclaration a été faite par le ministre chargé de l'immigration, Christos Papoutsis, en visite dans la région du fleuve frontalier Evros, au nord-est du pays. Alors pourquoi cette sortie ? Eh bien, il faut savoir que depuis 2010, le début 2010, la police a intercepté 34 000 personnes dans cette zone, contre 9 000 l'an dernier. Donc cette explosion n'est absolument pas gérée, au point que 44 migrants se sont noyés dans l'Evros depuis janvier. Et donc globalement, plus du trois quarts des 40 977 personnes interceptées pour entrée illégale dans l'Union européenne au premier semestre sont passées par la Grèce. C'est la raison pour laquelle la Grèce appelle au secours.
Autre chose, Lucien Valdès ?
Oui, c'est un dîner turc, figurez-vous. C'est le dîner turc du Premier ministre bulgare qui semble n'être pas passé, puisque le premier ministre bulgare, c'est Boyko Borisov, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce capitaine de pompiers qui est une véritable star dans son pays, et qui donc a été invité à New York par le président turc Abdullah Gül le 22 septembre dernier, et il a été c'était une invitation, un repas officiel. Le problème, c'est que le président turc, pour marquer son importance, est arrivé avec un certain nombre de d'heures de retard, et donc ça s'est très mal passé. On notera que il y avait quand même près de 200 personnes, dont les présidents en exercice de la Macédoine, du Monténégro, du Kosovo, de la Bosnie-Herzégovine, les premiers ministres d'Albanie, de Bulgarie et de Slovénie, les ministres des Affaires étrangères de Roumanie, de Croatie et de Grèce. Petite parenthèse, le président, enfin, il n'y avait aucun officiel serbe. Et donc, par réaction, le président bulgare est parti sans, en claquant la porte.
Ce qui est étrange, lorsqu'on sait qu'au départ, en fait, les Bulgares sont des Turcs.
Exactement.
À l'origine, les Bulgares de la Volga, donc, est un peuple turcophone.
Mais peut-être que eux le savent pas. Voilà.
Autre chose, Lucien Valdez.
Là, tout de suite.
Attendez, moi, je peux vous donner, parce que c'est arrivé aujourd'hui, je trouve ça assez incroyable. Vous savez qu'il y a. On va peut-être pas beaucoup en parler. Il y a ce fameux axe Paris-Berlin-Moscou qui nous est si cher, qui s'est retrouvé à Deauville. S'ils avaient pu trouver une autre ville que Deauville, mais enfin bon, on sait déjà bien qu'ils se réunissent.
C'est la reconquête.
C'est la reconquête. Par la Normandie, c'est pas mal. Hein. Alors, Paris et Berlin qui. Dans ce sommet, on décidait qu'ils allaient réformer les traités européens. Et alors, je sais pas, moi c'est ce que je viens de lire, c'est ce qui vient d'arriver. Alors l'accord va différer sensiblement des propositions de la Commission européenne. Réunis à Deauville, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont appelé à des sanctions en cas de déficit excessif dans la zone euro. Ils ont aussi demandé que d'ici 2013, une réforme des traités européens permette de revoir le pacte de stabilité. Donc si à chaque fois qu'il y a un déficit excessif dans la zone euro, on va avoir des sanctions. Je pense que la France va être en première ligne. J'espère que, parce que là, j'ai pas grand-chose, à moins que vous ayez quelque chose sur cette réunion à Deauville. Parce alors, que moi, oui. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup travaillé.
Bah, elle est surtout importante. Elle est surtout importante puisque
c'est une sorte d'échange de bons procédés.
C'était quand même la première fois depuis 2006, si mes souvenirs sont exacts, depuis donc la réunion entre Jacques Chirac à l'époque, Jacques Chirac, Schröder et Vladimir Poutine. Tout ce qui peut réunir le Paris, Berlin et Moscou est quand même une bonne nouvelle. Nicolas Sarkozy a, de son côté, lui, poussé l'idée d'un espace économique humain et de sécurité commun entre la Russie et l'Union européenne, qui est quand même une façon de dire que des gestes concrets seront utiles pour réduire les fractures. Donc on les connaît. Du côté russe, c'est les visas et les avantages commerciaux.
Oui, c'est ça que j'appelais un accord de bon procédé, c'est-à-dire que les Russes vont pouvoir normalement venir dans les pays de l'Union européenne sans visa. J'espère que ça sera aussi la même chose pour nous.
Du côté français notamment, c'est bien sûr l'implication sur la politique énergétique, et on l'a vu avec ce petit clin d'œil que j'ai fait en ouverture sur la société française qui fournira les tubes. Voilà, c'est ce genre de bon procédé qui ont animé cette réunion.
Avec Dimitri Medvedev qui a annoncé sa participation au prochain sommet de l'OTAN. donc le 19 et le 20 novembre, si vous êtes libre à Lisbonne, pour aller au sommet de l'OTAN, et qui a ouvert la porte à une participation de la Russie au bouclier antimissile proposé par les États-Unis en Europe.
En tout cas, c'est un tournant qu'on a pu observer depuis plus d'un an, un tournant avéré de la diplomatie française vers la Russie qu'on ne peut qu'applaudir.
En tout cas, je pense que quand Philippe Christel, le mois prochain, va revenir, il va nous engueuler parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense qu'il aura énormément de choses à dire sur cette réunion estivale à Deauville. Autre information, Lucien Valdès.
Exactement. Tout simplement, c'est un entretien exceptionnel qu'a accordé Hubert Védrine et Étienne Balibar sur l'Europe. Dans le dernier numéro de Philosophie Magazine, qui a retenu mon attention.
Vous lisez Philosophie Magazine, Lucien Valdès?
J'ai en tout cas lu cet entretien qui est absolument passionnant.
Bah, allez-y.
On le mettra d'ailleurs sur en ligne sur notre sur le site internet, puisque il est en ligne donc sur le site de Hubert Védrine.
Ah oui, ce sera pas un lien directement à Philosophie Magazine.
Tant il est intéressant et surtout assez politiquement incorrect de la part de l'ancien ministre des Affaires étrangères socialiste. Puisque quand Étienne Balibar lui pose cette question sur, on en revient toujours là, sur la question des frontières et notamment sur la question turque, Hubert Védrine est assez catégorique, en fait. Il indique quand l'Union européenne aura fixé sa géographie de façon stable, les citoyens européens se sentiront mieux. Ne pas la faire, c'est la noyer. Il a même d'autres phrases assez forte, puisque pour lui c'est important, si l'on veut que les citoyens européens s'identifient à un ensemble organisé et fixe, il indique on ne s'identifie pas à un ensemble gazeux qui se dilate sans fin. J'ai trouvé l'interview très frappée premièrement au coin du bon sens, mais surtout vraiment assez politiquement incorrect.
Bah écoutez, alors on va se précipiter soit sur le kiosque le plus proche pour acheter Philosophie Magazine si vous voulez l'acheter, autrement on vous mettra un lien sur notre site internet directement sur le site d'Hubert Védrine, c'est ça?
Exactement.
Il reste quelques minutes, je vais simplement rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie et des Chroniques de la Vieille Europe qui peuvent toujours participer au repas d'anniversaire de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que le rendez-vous, c'est le dimanche 7 novembre à 19h au Duplex, en face du 1 bis avenue Foch, Paris 16e, métro Charles de Gaulle Étoile. Second tour du scrutin et programmation du prix Jean Ferré 2010, à 21h, Assemblée Générale de l'association. Alors pour réserver, envoyez dès maintenant à notre secrétariat 61 boulevard Murat, 75016 Paris, un chèque de 49€ par personne pour recevoir votre billet d'entrée. Et les auditeurs qui souhaitent participer au premier tour du prix Jean Ferré doivent envoyer une enveloppe timbrée et libellée afin de recevoir le bulletin de vote. Vous avez alors un dernier message. Si vous donniez l'adresse de, on va la donner, de Solidarité Kosovo, boîte postale 1777 38 220 Vizil, c'est ça?
Exactement. Hein,
et chèque à l'ordre de Solidarité Kosovo. Je pense que le mois prochain, parce qu'ils nous ont envoyé un petit courriel, le mois prochain, on les fera venir 5 minutes pour qu'ils nous exposent, comme chaque année, le travail qui est fait par cette association au niveau du Kosovo. Voilà, merci à tous, Tancrède Josserand, Lucien Valdès, fin de ces chroniques sur Radio Courtoisie. On va rappeler, effectivement, merci Lucien de me tendre le livre, La nouvelle puissance turque, l'adieu à Mustafa Kemal de Tancrède Josserand aux éditions Ellipse. D'ici là, vous pourrez retrouver notre émission sur le site vieilleeurope.fr, sachant qu'il y a eu quelques petits problèmes ce mois-ci sur le site, mais c'est dû au serveur qui est un peu...
notre hébergeur qui a dû avoir quelques problèmes. Donc vous avez peut-être eu des journées où vous n'avez pas pu vous connecter sur notre site, mais je pense que c'est arrangé. Vous retrouverez cette émission effectivement d'ici, je pense, une journée ou deux, le temps que la personne qui s'en occupe la mette en ligne. Autrement, vous pourrez réécouter jeudi soir cette émission avec Tancrède Josserand. Je vous souhaite une bonne soirée sur Radio Courtoisie et à une prochaine émission des Chroniques de la Vieille Europe.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing.